J'ai accepté très volontiers vraiment cette invitation parce que je trouve que les questions abordées ce soir sont extrêmement stimulantes. Alors je vais essayer de les aborder et de décortiquer en économiste et donc d'abord de faire un peu une classification de tous ces exemples qui nous ont été donnés et une classification avec l'œil de l'économiste qui s'intéresse certes à l'efficacité, est-ce que ce qu'on propose ou tel type d'évolution est efficace et comment définissons-nous cette efficacité et puis aussi les questions de l'inégalité. Est-ce que telle évolution, tout en étant efficace, accroît, au contraire, réduit les inégalités entre les citoyens? Alors, tout ce dont nous parlons, j'ai vu dans Le Monde de samedi, qui consacre une page entière aux social investment bonds, aux exemples britanniques en particulier, que M. Deguerre, en France, qui est le patron de Fitrust, qui aussi fait ce genre de choses, appelle ça les partenariats publics-privés. Et c'est donc bien ça dont il s'agit. Et en fait, toutes les questions que nous abordons tournent autour de quel rôle pour l'État et quel rôle pour le privé. Et puis quel privé? Un privé entreprise qui cherche le profit ou un privé associatif qui cherche juste à couvrir les salaires et ses coûts? C'est ça dont il s'agit. Alors, moi, je vous propose une classification en trois grands domaines où se posent ces questions de partenariat public-privé et de partage entre l'État et puis autre chose que l'État pour atteindre des objectifs qui sont des objectifs de production de biens et services ou de production de biens publics, c'est-à-dire des biens et des services, mais qui n'ont pas de valeur de marché. Alors, le premier cas, c'est le microcrédit, mais on pourrait dire aussi c'est les monnaies locales. Là, a priori, l'État ne finance pas, il fixe des règles, ou au contraire, il laisse faire ou il tolère que se développent des activités entre acteurs purement privés et qui visent finalement, l'économiste dira, à réduire une imperfection de marché. C'est, il y avait une offre et une demande, elles ne se rencontraient pas. On met en place des mécanismes innovants pour qu'elles se rencontrent. Dans le cas du microcrédit, qu'est-ce qu'on fait? Mais en fait, on mobilise un capital social, dira l'économiste, qui était latent, qui était là, qui fonctionnait pour d'autres choses, mais qui ne s'appliquait pas justement au crédit. Le capital social dont il s'agit, c'est la confiance et la réputation dont bénéficient en particulier, auxquelles tiennent beaucoup les femmes. Voilà. Donc on s'est dit, puisque les femmes tiennent à leur réputation et se font confiance entre elles, on va leur demander de garantir les crédits, et comme ça, on n'aura pas besoin de faire beaucoup de recherches pour savoir si elles sont solvables ou pas. En fait, on leur fait confiance parce qu'elles-mêmes tiennent à la confiance qu'on leur fait. Voilà. C'est aussi simple que ça, et ça marche tant que ceci existe. Donc on utilise un capital social qui existait, on le potentialise grâce à des initiatives privées. Alors, bon, l'État peut éventuellement intervenir, mais quand? Quand justement l'opération ne rapporte pas au minimum ce qu'elle coûte, voire ne rapporte pas, un, ce qu'elle coûte, et deux, ce que demandent comme rémunération du capital ceux qui ont pris le risque de mettre de l'argent là-dedans, de le prêter par exemple, bon. Alors à ce moment-là, l'État peut subventionner. Mais vous voyez bien que si l'État subventionne, se pose pour l'État une question qu'on va retrouver plus tard, qui est si je mets mon argent public là, pourquoi je le mettrais chez eux, telle entreprise de microcrédit, plutôt qu'eux, une autre entreprise qui n'a pas les mêmes clients, et pourquoi je le mettrais dans le microcrédit plutôt que dans la fourniture de, par exemple, moustiquaires imprégnés d'anti-moustiques. Voilà, c'est la question. Comment distribuer l'argent public? Et pour ça, vous voyez qu'il faut un critère d'évaluation quantifié. J'y reviendrai. Quantifier. Pour pouvoir dire telle entreprise de microcrédit, finalement, secourt plus de gens que d'autres. Alors, c'est elle que je vais subventionner plutôt que telle autre. Bon. Mais là, on est quand même dans le domaine privé-privé, des gens qui ont des initiatives pour remplir les interstices des imperfections de marché. Tant mieux, on ne voit vraiment pas pourquoi. On ne se réjouirait pas de ça. Il faut adopter l'attitude des Chinois en la matière, que sans fleurs s'épanouissent. Laissons faire les expériences, observons-les. Il y en a qui vont se casser la figure, c'est évident. D'ailleurs, ça s'est produit dans le microcrédit, vous l'avez rappelé. Ça se produira demain dans les monnaies locales, parce que les monnaies locales, c'est aussi quelque chose exactement de ce type. Et puis, on sélectionnera ou se sélectionneront elles-mêmes les meilleures expériences. Voilà, c'est ça la vie marchande, disons. Alors, soit dit en passant, les monnaies locales, qui sont aussi une initiative intéressante, mais il y a tout de suite deux questions qui se posent. Soit elles cannibalisent autre chose, parce que les monnaies locales, c'est quand même le moyen de ne pas payer les services, les biens publics. Hein. On s'échange des services entre soi avec une monnaie qu'on crée, donc on ne contribue pas aux biens publics. Ce qui est le cas quand on a des échanges dans une monnaie, dans la monnaie nationale. Bon, alors soit ça cannibalise tout le reste et il n'y a plus personne pour financer les biens publics et là vraiment on a un problème de finances publiques, soit finalement ça crée des circulations qui n'existaient pas et qui viennent en plus, Et dans ce cas-là, c'est bon, et pourquoi s'en soucier encore une fois? Sauf que la monnaie, il faut la garantir. Eh bien, que les gens eux-mêmes organisent la garantie de leur monnaie. Mais pourquoi pas, c'est une idée que je n'ai pas vue, mais elle existe sûrement, hein, je fais confiance aux financiers. Pourquoi est-ce que des fonds ne pourraient pas tout simplement agir comme banque centrale à l'égard de systèmes de monnaie locale et donc apporter une garantie aux monnaies locales en échange de règles, évidemment, de gestion de cette monnaie locale, ce que fait toute banque centrale à l'égard de banques de second rang. Sauf que là, les banques, ce seraient les gens eux-mêmes. Bon, je ferme la parenthèse. Tout ça pour dire que vous voyez que je suis très favorable à ce genre de surgissement d'initiatives au sein du secteur privé. Bon, deuxième cas, l'État finance cette fois. Il finance et il fournit soit des biens et services qui sont des biens et services qui ont un prix sur le marché, soit des biens publics. Alors voyons le premier cas. Quand l'État fournit des biens et services qui ont un prix, de l'électricité, des autoroutes, des tunnels, des ports, enfin voilà. Eh bien, il le finance en levant des impôts. Alors, soit il le fait faire, soit il le fait lui-même. La tendance générale, c'est qu'il le fait de moins en moins lui-même et qu'il le fait de plus en plus faire. Mais je dirais, ça existe depuis longtemps, c'est bien réglé. C'est les partenariats publics-privés de type build, operate, transfer, c'est-à-dire qu'il y ait des charges très précises. On confie à une entreprise de fabriquer une centrale électrique, de la faire marcher, puis quand elle marche bien, c'est une entreprise d'État, voire l'État lui-même qui la reprend. Ou alors, au contraire, il continue à déléguer son opération à l'entreprise publique avec un cahier des charges qui stipule finalement quel sera le revenu fixe et sûr et garanti de l'entreprise privée qui remplit par délégation ce que faisait l'État auparavant. Je dirais que ça pose pas de problème très particulier. Alors pourquoi on le fait? Parce qu'on en attend un gain d'efficacité, parce que l'entreprise privée est censée fouetter plus dur ses employés que l'entreprise publique, pour parler bref, et que par conséquent elle obtiendrait d'eux une meilleure productivité, ça peut se discuter. Est-ce que ça a des conséquences en termes d'inégalité? Bon, quand le bien est bien défini, vous voyez, un mégawattheure, qu'il soit produit par l'État ou par une entreprise privée cherchant le profit sous délégation de l'État, ça ne fait pas grand-chose de différence pour le consommateur. Néanmoins, quand on regarde les choses un peu plus près, EDF, par exemple, dit « Jamais une entreprise privée n'aurait rétabli le courant aussi vite après la célèbre tempête de je ne sais plus quand, 2000, où on a vu tous les retraités d'EDF venir réparer. Ce type de mobilisation n'est pas imaginable dans une entreprise privée. » Laissons ça de côté, mais quand même, l'efficacité supérieure qu'on attend de l'entreprise privée dans ce type de partenariat, c'est ça l'objectif, en les mettant en concurrence en plus, se paye peut-être quelque part quand même d'une qualité de service, même avec un cahier des charges extrêmement bien précisé. Enfin, ça, c'est pas encore le plus compliqué. Ensuite, on arrive à quelque chose du même type, mais par exemple dans la santé et l'éducation. Mais que voyons-nous sous nos yeux? Nous voyons un système de santé avec un hôpital public où il y a les meilleurs médecins, mais les 10 meilleurs médecins exercent par ailleurs en ville ou dans des cliniques privées à des prix bien plus élevés, et il y a des gens pour payer ça. Donc là, ils vendent, en fin de compte. Ce qui se passe, c'est que l'État, en ayant recours à une association d'un type particulier avec le privé, là j'ai parlé de la clinique privée dans laquelle opère un chirurgien qui par ailleurs opère dans l'hôpital public, cas fréquent, je dirais même cas général, bon. Mais on pourrait aussi parler de l'école catholique privée, mais qui fonctionne dans le cadre de l'éducation nationale, avec des règles fixées par l'éducation nationale, etc. Là, vous voyez que le partenariat public-privé, que fait-il? D'une certaine manière, un, on retrouve les avantages, s'ils existent, de l'efficacité. Mais à ce moment-là, la question, la clinique privée étant beaucoup mieux organisée, c'est vrai que si vous avez à l'hôpital américain, vous arrivez, vous n'attendez pas, vous êtes pris en charge, les choses s'enchaînent les unes après les autres, vous sortez de là, vous avez toutes les analyses, le diagnostic, etc., et l'addition. Les conséquences. Mais on peut se demander pourquoi l'hôpital public ne fonctionne pas aussi bien que ça, à vrai dire. C'est pas impossible. Et je ne crois pas que c'est parce que les gens à l'hôpital américain sont excessivement beaucoup plus fouettés. Peut-être même d'autres méthodes sont à l'utiliser. Mais en revanche, ce qui est clair, c'est que ça introduit une différenciation dans les produits, c'est-à-dire vous avez la médecine de riche et la médecine hospitalière standard en arrivant par les urgences, en prenant sa place dans la queue, mais vous avez les mêmes médecins au bout quand même. Et puis vous avez l'école publique standard, et puis l'école avec un plus, la différenciation produit. Alors ça, c'est de la différenciation produit verticale, ce que je viens de vous dire, pour les cliniques. Et vous avez la différenciation de produit horizontale, vous avez la même école, plus celle qui est catholique, juive, musulmane, etc., mais dans le même socle, même programme commun. Et vous payez en plus une différence. Bon, on pourrait dire que c'est mieux pour le public. Mais la vérité, c'est que ça crée des polarisations et ça crée des inégalités. Et très rapidement et très fortement. C'est-à-dire que dans les meilleures cliniques, on va attirer les meilleurs médecins qui vont être de moins en moins dans le système public et qui vont être de plus en plus chers, etc. Même chose pour les écoles. C'est bien ça, l'arbitrage, en fin de compte. Enfin, vous avez une troisième cas qui est le plus intéressant, en fin de compte, enfin, le plus nouveau. C'est le cas où l'État produit un bien public. Par exemple, l'éducation primaire peut être considérée comme un bien public. Pour une raison simple, c'est que ça ne sert à rien d'être le seul à savoir écrire. Mais en revanche, ça ne sert à rien que tout le monde soit polytechnicien. Nous, vous voyez que normalement, l'éducation primaire est un bien public parce qu'elle crée des externalités. Chaque fois qu'une personne de plus sait écrire, ça améliore l'utilité de tous les autres qui savent écrire. Mais en revanche, l'éducation supérieure qui fait un tri entre les gens, qui donne à certains des compétences qui leur permettent de gagner beaucoup plus dans la vie, la logique, c'est que ça devrait être privé et chacun devrait investir. Alors ensuite, vous avez toujours l'efficacité et l'égalité. Mais vous pouvez imaginer un système de détection des meilleurs à qui on donne les moyens d'investir dans eux-mêmes, en fin de compte. Soit en leur donnant des bourses, soit des prêts, etc., etc. Ou alors, vous avez la gratuité et le système de sélection des meilleurs. Mais comme on sait, c'est toujours de l'antisélection. C'est-à-dire que c'est pas... ce sont les familles bourgeoises qui font financer les études gratuites de leurs enfants par les familles pauvres. C'est la réalité du système actuel. Bon. Donc, financement des biens publics. Alors, prenons l'exemple, puisque vous l'avez cité, on va terminer là-dessus, je vais terminer comme vous là-dessus, de, disons, l'assistance sociale au sens large. Les gens qui s'occupent d'éviter que des jeunes deviennent des délinquants et, quand ils sont passés en prison, de s'occuper d'eux pour qu'ils n'y retournent pas trop vite. Ça, c'était... Ça peut s'appeler un service public. Qu'est-ce que vous produisez ? Vous produisez de la paix sociale, vous produisez du capital social, en fait, avec de l'argent public. Et la quantité de ce que vous produisez est très difficile à évaluer dans le système public. Vous avez des gens, finalement ça s'évalue au nombre de gens qui travaillent à ça, en gros. C'est comme ça qu'on l'évalue d'ailleurs. On prend le nombre de gens qui travaillent à ça, on multiplie par leur salaire et voilà la valeur de la production en question. Alors ce dont il s'agit, c'est de passer ça à une forme de privé. Alors d'abord ça existe. Aujourd'hui, ce genre de fonction est massivement rempli par des associations. Vous les avez citées. Mais ce sont des associations d'un type un peu particulier. Ils ne cherchent pas le profit, en effet, mais en fait, ce sont des clients de l'État. Si d'une année à l'autre, vous leur supprimez la subvention, ça fait des pages dans le journal local. Bon, ce sont des quasi-fonctionnaires, un peu des appendices. Alors, il y a quelques marges de manœuvre. D'une année sur l'autre, on va augmenter un peu les budgets de l'une et les budgets de l'autre, mais on ne constate pas de véritable compétition entre elles. Quel avantage en efficacité, peut-être? C'est des gens peut-être plus spécialisés, plus conscients de contextes particuliers, éventuellement des bénévoles, etc. Probablement, ils sont moins payés aussi. Il s'agit d'introduire là-dedans, un, la compétition véritable, et deux, de financer ça par des moyens particuliers, donc de mobiliser de l'épargne pour financer ça. C'est ça dont nous parlons. Alors, ce qui est important de voir, c'est que, premièrement, il va falloir mesurer, voilà, évaluer. L'évaluation de tout, selon Jean-Claude Milner, est une des grandes tendances de notre époque, dangereuse selon lui pour les libertés, mais là on voit bien qu'il va falloir évaluer. Donc il va falloir mesurer les résultats de telle association, parce que c'est de ça que va dépendre la part des fonds publics qu'on va lui allouer. Bon. Et a priori on peut imaginer des critères assez simples, mais l'important n'est pas là. Quelle est la conséquence de cette évaluation ? C'est qu'il va se produire ce que nous, les économistes, nous appelons une sélection inverse. Les entreprises en question vont aller chercher les meilleurs cas. Elles vont aller sauver de la délinquance les types qui avaient à peine besoin qu'on les sauve, qui étaient au bord d'être sauvés de la délinquance, voire qui donnaient faussement l'impression qu'ils allaient tomber dedans. Et vous pouvez être sûr qu'ils vont les détecter, parce que c'est ça qui va améliorer les scores, compte tenu du critère. Et par contre, les délinquants qui ont toutes les chances d'y aller, ben personne ne va s'en occuper. Et donc vous allez toujours avoir le fond de la bouteille dont il va falloir que quelqu'un s'occupe. Alors vous me direz, ça c'est l'État qui va s'occuper. Mais oui, si l'État s'est entièrement déchargé, vous voyez bien que ces gens-là vont être défavorisés. Donc ce type d'introduction, d'une fragmentation finalement, par mise en concurrence de diverses entités, et a fortiori si vous les financez, on viendra à la financement pour finir, peut introduire et même risque d'introduire une fragmentation et de grandes inégalités pour un gain d'efficacité qui existe peut-être et qui aurait les mêmes raisons que précédemment. Et alors pour finir, si on finance ça par des bons, c'est-à-dire on fait appel à l'épargne publique et on leur dit vous apportez de l'argent à cette entreprise, cette ONG, peu importe, et vous savez quel est son mode de rémunération. Hein. En fonction de ses résultats, elle va recevoir de l'État ou d'associations caricatrices qui auront voulu financer cette affaire aussi tant et tant. Et bien, si elle échoue, elle aura moins. Et donc, est-ce que vous prenez le risque ? Je pense que si on n'a pas la tentation de faire autre chose que des instruments financiers simples de ce type, c'est-à-dire des fonds dédiés dont la politique d'investissement est connue des actionnaires, les risques peuvent être analysés par eux, on ne risque pas des affaires à la subprimes. Parce que ce qui a provoqué la crise à partir des subprimes, c'est la sophistication des instruments qui fait qu'on a fabriqué des instruments financiers dont plus personne n'était capable d'évaluer le risque. Le but de la chose, c'était évidemment de garder les rendements pour ceux qui fabriquaient ces instruments, qui étaient les banques de financement et d'investissement, les grandes banques d'affaires. C'était de garder une partie des rendements et de refiler le risque à d'autres. L'arroseur a été parfois arrosé parce qu'on avait gardé dans les soutes quand même justement les fonds de cuve. Les choses risquées et épouvantables, donc ça crée la crise qu'on sait, etc. Je ne vois pas pourquoi la finance dont nous parlons pourrait entraîner ça si elle reste faite d'instruments simples, traçables et dont le risque est évaluable par ceux qui ont envie d'investir là-dedans. Mais bien sûr, il est évident que les grandes banques, les banques de financement et d'investissement vont chercher à faire de l'innovation financière là-dessus. Bon, mais on est prévenu d'une certaine manière. Donc je pense qu'il peut y avoir des cracks, de même que dans les monnaies locales il y a des cracks, à savoir des mauvais investissements. Mais si on ne sophistique pas trop, ça devrait en rester là. Donc finalement, moi je suis plutôt optimiste. Je trouve que dans ces domaines, on devrait laisser s'épanouir toutes les expériences en les regardant attentivement et puis supporter les échecs qu'il y en a et faire émerger de tout ça les formules qui se montreront à la fois plus efficaces et plus égalitaires.